Le 18-20 commence comme chaque soir avec ce que vous devez savoir de l'actualité de ce mercredi 8 septembre avec le journal de Sébastien Legénie. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Sébastien, l'essentiel commence avec un accusé qui se présente comme un combattant du djihad.
Salah Abdeslam, principal accusé des attentats du 13 novembre 2015. Il est apparu pour la première fois dans le box aujourd'hui. Première journée d'audience à ce procès fleuve. Abdeslam qui a revendiqué dès le début de l'audience son appartenance à l'État islamique et qui s'y dit traité comme un chien par la justice. Dans un instant, compte rendu de cette première journée très tendue avec nos reporters sur place, témoignages et réactions à suivre. À suivre également la réforme des retraites qui retourne au fond du tiroir. Les conditions ne sont pas réunies selon le Premier ministre Jean Castex, on l'entendra. Nicolas Sarkozy qui pousse finalement pour une primaire à droite et l'avortement qui devient légal au Mexique grâce à la Cour suprême.
À 18h15, un jour dans le monde, nous sommes au Qatar, devenu l'intermédiaire incontournable des négociations avec les talibans, mais pas seulement. Le Qatar qui sait se rendre indispensable, qui parle à tous ceux à qui on ne veut pas parler sur la planète et qui entend jouer du soft power avec la diplomatie et aussi, vous le savez, avec le foot. On verra si ça marche et comment dans un instant. 19h20, c'est le téléphone sonne et c'est le moment pour nous aussi de poser toutes les questions que vous voulez à l'ouverture de ce procès du 13 novembre. Vous avez entendu comme nous comment Salah Abdeslam est entré dans ce procès, mais ensemble et grâce à vous, on essaiera de comprendre vraiment qui est jugé, ce qu'on doit attendre des débats, à quoi ressemble ce défi pour l'institution judiciaire sur le fond comme sur la forme. Vos questions, c'est au 01 45 24 7000.
France Inter.
Le procès historique des attentats du 13 novembre 2015 s'est donc ouvert ce midi.
Dans un palais de justice de Paris transformé en bunker depuis ce matin, près d'un millier de forces de l'ordre mobilisées. C'est dans ce contexte de grande tension, de grande émotion que les accusés ont fait leur apparition pour la première fois dans la gigantesque salle d'audience qui doit accueillir les débats pendant près de 9 mois. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Vous suivez cette audience pour France Inter, audience, on le disait, très tendue. Tous les regards étaient tournés aujourd'hui vers le dernier membre du commando encore vivant, Salah Abdeslam, principal accusé, et dont le comportement et les mots, Charlotte, ont été glaçants aujourd'hui.
On s'interrogeait sur sa volonté de s'exprimer à l'audience et il n'a pas fallu attendre longtemps pour avoir la réponse. À peine invité à se lever pour décliner son identité, Salah Abdeslam, tout de noir vêtu, installé à l'extrémité du box la plus proche de la cour, enlève son masque et déclare « Tout d'abord, je tiens à témoigner qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah et que Mohamed est son serviteur et son messager ». Le ton est donc donné à l'aube de ces 9 mois d'audience. Le président écarte la diatribe d'un revers de manche, on verra ça plus tard, interroge le principal accusé sur sa profession. Salah Abdeslam reprend toujours très calme dans le ton, mais le regard noir, comme halluciné. J'ai délaissé toute profession pour devenir un combattant de l'État islamique. Voilà pour les premiers mots si attendus du seul survivant des commandos du 13 novembre 2015. Puis il y a quelques instants à peine, alors qu'il était question des conditions de détention d'un autre accusé, Salah Abdeslam s'est octroyé une nouvelle provocation. Dangereux ou pas dangereux, on est des hommes et on est traités comme des chiens. Moi, cela fait 6 ans et si je ne me suis jamais plaint, c'est parce qu'après la mort, on sera ressuscité et qu'il y aura des comptes à rendre.
En revanche, Charlotte, les autres accusés à présent, 13 au total en plus d'Abdeslam, les autres ont choisi une attitude plus apaisée.
Oui, une attitude totalement différente pour les 13 autres accusés présents à l'audience. Plusieurs d'entre eux sont venus en chemise, s'expriment poliment, parfois par le truchement d'un interprète en arabe, en suédois ou encore en ourdou. Tous répondent sans rechigner aux questions sur leur identité, leur profession. L'un d'eux, chauffeur-livreur à l'aéroport de Bruxelles, par exemple, ou le lieu de leur incarcération. Ces 11 accusés détenus ont ainsi été regroupés dans 4 prisons de région parisienne pour la durée de cette audience.
Charlotte Piret en direct du Palais de Justice de Paris avec les moyens techniques de Frédéric Kerrou et avec Sophie Parmentier également. Rappelons qu'elles suivront toutes les deux ces audiences en intégralité, à suivre également sur leur compte Twitter. Dans la salle d'audience aujourd'hui, peu de parties civiles, peu de victimes, de rescapés. Leur témoignage commencera d'ici 3 semaines. Pour autant, certains avaient tenu à être présents dès l'ouverture du procès. Alors comment ont-ils réagi à cette première journée, au premier mot du principal accusé? Écoutez Thierry, rescapé du Bataclan.
En fait, j'attendais rien, mais dès qu'on l'a vu, ça m'a fait quand même quelque chose. J'avoue, je sais pas comment expliquer ce sentiment de mec qui ressemble à rien, quoi, barbu, et qui commence à faire son malin en disant qu'il est combattant, etc. Je sais qu'autour de moi, ça a fait une réaction. Puis après, le président a remis les choses en truc et on a tous rigolé. Il a fait taire l'assistant parce qu'il s'est foutu un peu de lui. Voilà, point, il fait son numéro. On s'attendait pas à ça, on a été surpris. J'étais surpris. Une fois qu'il a commencé à parler, ça regardait, puis après, bon, on a repris le cours, on a dit ça y est, il fait son numéro, mais c'est le ton d'un mec qui fait le mariole. Mais bon, après, moi, ce soir, je vais pouvoir aller en terrasse. Lui, non.
Ouais, Thierry rescapé du Bataclan, surpris, dit-il au micro de Sophie Parmentier. Une première journée d'audience à l'ambiance très lourde, on l'entend, du côté également de la défense des accusés. Écoutez, Xavier Nogueras, il est l'avocat du chauffeur présumé de Salah Abdeslam, juste après les attentats.
Il y a beaucoup de solennité. Je n'ai pas senti, on n'a pas senti, mes confrères et moi, en défense, on est très organisés, on reste encore une fois très dit, on n'a pas senti d'incompréhension ou d'agressivité de la part ni de nos confrères en partie civile, ni des victimes elles-mêmes. On sait que tout ça va être très long. Je crois que tout le monde connaît particulièrement bien le dossier. Ils savent quelles sont les responsabilités de chacun, quelles sont les charges qui reposent sur les épaules de chacun des individus. Chacun n'est pas poursuivi pour la même chose. Le travail va pas être le même en fonction des différents avocats. Et je pense que, voilà, encore une fois, faut pas oublier que la plupart des gens qui ont été meurtris par ces événements, c'est les gens de notre génération. 30 ans, 40 ans, qui ont les mêmes activités, les mêmes passions, les mêmes hobbies que nous. Et donc, on se comprend, ils savent, ils ont toute la conscience que chacun doit être à sa place, y compris en défense, pour faire en sorte que la décision qui sera rendue dans 9 mois, elle soit rendue de façon équitable, en tout cas dans le respect des procédures, de notre procédure, de notre justice, de notre démocratie, de nos règles républicaines, tout simplement. Donc chacun à sa place nécessairement.
L'avocat Xavier Nogueras qui sera l'invité du Téléphone Sonne tout à l'heure consacré à cette première journée d'audience alors qu'il est le procès repris consacré pour le moment à l'appel des 1765 parties civiles. Appel qui doit durer encore 2 jours. Au chapitre judiciaire encore, Éric Zemmour relaxé en appel pour ses propos contre l'islam et l'immigration tenus lors d'une convention il y a 2 ans organisée par des proches de Marion Maréchal. En première instance, l'éditorialiste à qui l'on prête des ambitions présidentielles avait écopé d'une amende de 10 000 euros.
À 18h08, Sébastien, un nouvel épisode dans le feuilleton de la réforme des retraites.
Une réforme explosive que l'on avait cru d'abord enterrée avec la crise sanitaire, puis ressortie des cartons au début de semaine avec des indiscrétions laissant entendre qu'une suppression à minima des régimes spéciaux pourrait s'envisager avant la présidentielle. Et puis là, donc, dernier épisode en date, la déclaration de Jean Castex cet après-midi à la sortie d'un séminaire gouvernemental, le Premier ministre qui coupe court aux rumeurs et pour qui les circonstances ne se prêtent pas encore à une réforme. On l'écoute.
La crise sanitaire a interrompu le processus de réforme et, comme je l'ai redit aux partenaires sociaux lorsque je les ai reçus la semaine dernière, ce processus, du reste modifié compte tenu des conditions nouvelles, ne pourra reprendre que lorsque la pandémie sera sous contrôle et que la reprise économique sera suffisamment solide. C'est une question de bon sens. J'allais dire que c'est un préalable à la réussite de cette réforme très importante. À ce jour, ces conditions ne sont toujours pas réunies. Nous avons plus que jamais l'impérieux devoir de favoriser au maximum l'unité du pays.
Jean Castex, le Premier ministre, avec Simon Le Baron. Le public pourra se recueillir devant le cercueil de Jean-Paul Belmondo dans la cour des Invalides à l'issue de l'hommage national qui aura lieu demain après-midi. La cour sera ouverte à partir de 19h30 à toutes les personnes qui le souhaitent. Au chapitre politique, encore à droite, c'est toujours la primaire qui agite les états-majors avec une pression qui s'accroît de plus en plus pour qu'elle ait lieu, car il y a un homme dont la vie compte beaucoup à droite et qui semble s'être désormais converti à l'idée, c'est Nicolas Sarkozy. Bonsoir Anne Souhaitemont.
Bonsoir.
L'ancien président de la République aurait changé d'avis. Hein.
Oui Sébastien, un cadre LR venu le voir cette semaine, Nicolas Sarkozy l'a dit, la primaire n'est pas plus forcément le plus mauvais des systèmes. Longtemps opposé au processus, l'ancien président est donc moins catégorique face à la multiplication des candidats à la présidentielle. Xavier Bertrand, on le sait, Michel Barnier, Éric Ciotti, Philippe Juvin qui veulent une primaire ou encore Valérie Pécresse, candidate elle à la présidentielle en passant par la primaire si elle a lieu. À 15 jours d'un congrès décisif, c'est donc toujours la confusion la plus totale. 3 options sont toujours sur la table. Une primaire ouverte, comme en 2016. Pour nous, c'est ça ou rien, dit-on dans le camp de Valérie Pécresse. Une primaire réservée aux sympathisants ou un vote interne limité aux adhérents. Chargé de bâtir un processus, le sage Jean Leonetti a dit ce matin dans le Figaro que la primaire aurait bien lieu. Coup de pression, décrypte un élu LR, car en coulisses, un tout sauf Bertrand est en train de se dessiner. Il faut qu'il se soumette au processus de désignation du parti, s'énerve un député. Alors Xavier Bertrand pourrait-il changer d'avis ? se soumettre à une primaire. Officiellement, c'est toujours non. Mais il a rendez-vous le 20 septembre. Devinez avec qui ? Avec Nicolas Sarkozy.
Anne Souhaitement, merci du service politique de France Inter.
C'est un pas de plus dans la lutte historique pour l'égalité des femmes.
La phrase est signée du président de la Cour suprême du Mexique, car la plus haute instance judiciaire mexicaine a de fait rendu l'avortement légal dans tout le pays. Il est devenu inconstitutionnel de s'opposer à une interruption de grossesse. Réaction très partagée dans le pays. Reportage à Mexico avec Emmanuel Stills.
Ils ne savent pas ce qu'ils font. Les manifestants anti-avortement qui priaient hier devant la Cour suprême mexicaine citaient la Bible pour disqualifier la décision des juges. Une décision unanime reçue par une société divisée. En tête des opposants à l'avortement, le président. Ce mercredi, López Obrador a refusé de se prononcer sur la décision de la Cour, jugeant le sujet trop délicat. Mais pour les féministes mexicaines, c'est une victoire totale. Pamela Robles, une fonctionnaire et militante, estime que son pays sort du Moyen-Âge grâce à cette décision.
Il y a encore une longue lutte devant nous, mais le Mexique change. C'est impressionnant. Je me sens fière de mon pays aujourd'hui.
Actuellement, une vingtaine d'États mexicains criminalisent encore l'avortement et emprisonnent les femmes. Plus pour longtemps, d'après la politologue Fernanda Salazar.
Les femmes qui sont en prison peuvent invoquer le critère établi par la Cour pour obtenir leur liberté, et cela empêche d'autres États d'adopter des législations contre l'avortement.
Sur les réseaux sociaux, les opposants à l'avortement les plus superstitieux ont qualifié de punition le violent tremblement de terre qui a secoué le centre du pays mardi soir. Mexico, Emmanuel Stills, France Inter.
À l'inverse, en Afghanistan, le sort des femmes inquiète chaque jour un peu plus. Aucune femme dans le gouvernement taliban rendu public hier. Un gouvernement critiqué par toutes les chancelleries occidentales. Les actes ne suivent pas les paroles, selon le Quai d'Orsay. On termine avec une initiative positive pour sensibiliser à l'illettrisme. L'illettrisme qui touche 2,5 millions de personnes en France, tout particulièrement dans le Nord et le Pas-de-Calais. Plus d'un habitant sur 10 affecté. Le premier obstacle pour un illettré, c'est souvent de se confronter à son conseiller Pôle emploi, pas averti des difficultés. Alors, des formations ont lieu pour mieux informer les salariés de Pôle emploi. Reportage à l'agence de l'île Grand Sud d'Alice Marot.
Les volontaires doivent d'abord tenter de déchiffrer un texte dans une langue étrangère, du cyrillique. C'est une idée de Virginie Drapier, une des conseillères de l'agence.
Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir traduire ça? C'est une image, donc Google Translate, il traduit pas les images. Et là, c'est de dire aussi, le demandeur d'emploi, des fois, il est confronté à sa convocation ou à sa fiche de paye, et c'est pareil, il n'arrive pas à la décrypter.
Un changement de place qui fait du bien à Virginie Fontaine, elle aussi est conseillère. Elle reçoit tous les jours des personnes qui ont du mal avec la lecture et l'écriture.
On peut être aussi parfois dans un jour un peu moins bon et puis s'agacer parce qu'une personne ne comprend pas forcément ce qu'on lui dit et se dire mais réfléchis, ça nous aide à être beaucoup plus patient, empathique, bienveillant aussi.
Et cela permet de mieux repérer les personnes en difficulté qui ne le montrent pas toujours et de mieux les aider, explique Virginie Drapier.
C'est important pour que les collègues puissent accueillir au mieux et puissent après faire des propositions aux demandeurs pour améliorer leur compréhension du français.
Pour l'instant, ce projet n'existe qu'à l'île Grand Sud, mais ses créateurs espèrent que d'autres agences Pôle emploi s'en empareront.
Reportage d'Alice Marot, les journées de lutte contre l'illettrisme ont lieu toute la semaine. 650 manifestations dans la France entière.
Sébastien Logeni, merci beaucoup. Sébastien, tout de suite, dans Un jour dans le monde avec Sous les radars, vous allez notamment nous amener à San Salvador. Ce soir, nous sommes au Qatar, qui est en train de se rendre indispensable dans le jeu diplomatique. C'est le pays qui parle à tous ceux à qui on ne veut pas parler justement, on le verra ensemble avec notre premier invité. Et puis 19h20, c'est le téléphone sonne à l'ouverture de ce procès du 13 novembre. Vous avez sûrement beaucoup de questions sur le fond, qui est réellement jugé pour les 9 prochains mois, au-delà bien sûr de Salah Abdeslam. Les questions sur la forme aussi de ce procès tel qu'on n'en a jamais organisé en France. Les parties civiles, les avocats, est-ce que l'on juge vraiment des hommes? Est-ce qu'on est plutôt dans l'exercice de montrer l'état de droit, le bon fonctionnement de l'institution judiciaire? Le chemin, vous le connaissez, c'est le 01 45 24 7000. Et sinon, dans le ciel, qu'est-ce que ça raconte ?
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Et Sébastien Léas, bonsoir. La question est simple. Est-ce que je vais prendre une douche monumentale si je rentre à vélo tout à l'heure?
C'est bien possible, voilà. Fabienne. Bonsoir. Oui, 32 départements entre les Pyrénées, le Languedoc, la Sarthe, l'Île-de-France et l'ouest de la Bourgogne sont actuellement placés en vigilance orange pour des conditions très agitées. Sur cet axe, il faut s'attendre à des orages forts et porteurs de grêle, une importante activité électrique, mais aussi des pluies localement intenses entre l'ouest du Massif central et le Midi toulousain et entre l'Aude et le sud du Tarn. Les cumuls dans les prochaines heures pourront être abondants et des inondations sont à prévoir. Des orages éclatent en ce moment entre le Pays Basque, le Centre-Val de Loire et la Basse-Normandie. Ce soir et cette nuit, cette salve orageuse va se décaler légèrement vers l'est en devenant de plus en plus active. Demain matin, on trouvera encore des orages entre l'est des Pyrénées, le Massif central et le Grand Est, avec toujours des risques de pluie soutenues entre l'Hérault et l'Aude. Et puis sur les régions de l'ouest, la matinée sera un peu plus clémente avec des averses plus rares, mais sous l'effet du réchauffement diurne, les averses se réactiveront l'après-midi. Alors les cumuls seront quand même moins importants que durant la nuit et quelques endroits resteront même un peu à l'écart. Entre le bassin parisien, les frontières belges ainsi qu'en Corse, les averses seront isolées, des éclaircies se dessineront. Et puis entre l'Alsace, le Jura, les Préalpes et les plages de la Méditerranée, l'après-midi restera globalement sec, mais un épais voile nuageux viendra recouvrir le ciel.
Et puis c'est pas fini, hein, ça continue donc demain après-midi en gros, Sébastien.
Oui, alors, oui, des cumuls quand même nettement moins importants, même si le risque d'averse va se généraliser demain après-midi. Du côté des températures, il fera encore chaud, même si les maximales seront en légère baisse. Prévoyez 22 à 30 degrés en général, avec 27 degrés pour Paris et pour Rouen.
Sébastien Léas de Météo France, merci beaucoup.